Passion Logement, une émission proposée par la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, avec son président Jean-Marc Torollion sur Radio Immo.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà, c'est un mois exceptionnel, le mois d'avril 2022, bien évidemment, puisque ce n'est pas une mais deux tribunes Passion Logement auxquelles vous avez eu droit. Vous avez eu droit et effectivement, ça a été diffusé récemment sur Radio Immo, Passion Logement, où on a lancé un vibrant hommage à Laurent Vimont, président emblématique de Century 21, toujours accompagné bien évidemment de Jean-Marc Torollion, le président de la FNAIM. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Très bien.
Je suis ravi de vous voir. Alors, bien sûr, on ne pouvait pas ne pas l'évoquer, puisqu'il n'a échappé à personne, mon cher Jean-Marc, que nous sommes dans l'entre-deux-tours et que beaucoup d'attentes se font autour des résultats des élections dans une ambiance, on peut le dire, un peu particulière. D'aucuns diront que le débat public a été totalement absent et gommé par l'effet Covid, la guerre en Ukraine, l'explosion des matières premières, le coût de l'énergie, la préoccupation des Français. On peut en être peiné, on peut se dire effectivement qu'il n'y a pas eu de gros débats. Les résultats sont, on va dire, singuliers. Et si je peux me permettre, gauche et droite ont été congédiés du débat public, puisque de mémoire, et les Républicains comme le Parti Socialiste n'ont jamais eu un score aussi incroyable. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que ce cher Jean Lassalle a fait un score plus élevé que le Parti Socialiste, ce qui est absolument incroyable. Voilà, réaction du président que vous êtes quand vous voyez aujourd'hui ces résultats?
Alors d'abord, la Fédération nationale de l'immobilier, elle ne fait pas de politique,
oui.
Mais nous, il y a des éléments qui vont nous intéresser au plus haut point. D'abord, la nature des programmes des deux finalistes quand même, parce que c'est quelque chose qui va intéresser tous les propriétaires de France, tous les locataires de France, avec notamment les enjeux climatiques, dont on peut d'ailleurs remarquer que le parti qui était censé peut-être porter le plus les enjeux climatiques n'est pas celui qui a recueilli et de loin le plus de voix. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est un petit peu la sociologie des votes, parce qu'on avait coutume de dire que Emmanuel Macron était plutôt le candidat des villes. Quand on regarde certains résultats, c'est pas tout à fait le cas ou c'est plus tout à fait le cas. On voit notamment Jean-Luc Mélenchon avec son parti La France Insoumise avoir fait de remarquables performances dans les villes. Qu'est-ce que ça signifie? Certes, on voit, il faut pas caricaturer, on voit le vote Front National aussi émaner plutôt de certains territoires, on va dire urbains et ruraux. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc moi, j'attache beaucoup de signification à cela pour essayer éventuellement de le raccorder à la façon dont, sur ces territoires-là, nos concitoyens vivent leur immobilier. Y a-t-il un lien entre la façon dont on s'exprime électoralement et la façon dont on vit son immobilier, la peur du déclassement, la peur d'une perte de valeur.
Très juste.
Voilà, avec les tensions que l'on peut avoir par ailleurs sur des marchés qui sont bousculés par les nouveaux arrivants des villes parce que le télétravail fait son effet. Donc ça, c'est à regarder de près. Et je pense que, et c'est là où je vais en venir, l'immobilier compte aussi dans l'expression du vote de nos concitoyens. La cohésion des territoires, plus que jamais, va être un enjeu déterminant. Et sans faire de politique, encore une fois, nous avions déjà alerté plus d'une fois sur cette situation. Chacun sait qu'on est contre le zonage, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, rééquilibrage territorial, à mon avis, comptera beaucoup dans l'apaisement de ce pays.
Alors, vous avez non seulement raison, mais effectivement, on l'a vu hein, récemment dans l'actualité, certaines régions de France deviennent un peu compliquées sur le plan du logement. Vous en êtes beaucoup ému, vous avez même publié sur le sujet. Mais néanmoins, on l'a dit souvent d'ailleurs dans les tribunes, vous avez été le premier à dire, je trouve désolant que le logement, comme étant le premier poste de dépense des Français, comme étant un besoin de première nécessité, ait été absent d'un débat construit autour de l'urbanité et du logement. Moi, j'ai envie de vous poser cette question pour clôturer ce sujet et pour la première partie de notre émission. C'est, Jean-Marc Torollion, comment on fait pour loger les Français?
Pour loger les Français, on construit. Pour loger les Français, on densifie. Pour loger les Français, on a une politique de l'offre. Et puis pour loger les Français aussi, en rééquilibrant les territoires, on récupère du logement ou on conforte du logement que l'on avait tendance à déclasser. Moi, j'attire l'attention sur un point particulier. Je pense qu'il y a une rupture, enfin, il y a une rupture. Il y a une modification du lien emploi-logement, lié à la période de Covid, lié au phénomène qui est maintenant indiscutable
du télétravail,
et donc des Français s'éloignent de leur lieu de travail. Et donc, il va bien falloir nous reposer la question de l'équilibre territorial, encore une fois, et de la faculté que souhaitent avoir les Français de pouvoir vivre peut-être là où ils le souhaitent, avec un lien plus distendu par rapport à la situation de leur emploi.
L'actualité, puisque finalement il y a une conséquence logique, qui est la hausse, l'explosion des matières premières, notamment pour la construction, mais et l'explosion des coûts de l'énergie, qui est un sujet important. Et d'ailleurs, dans son rapport, c'était le député Nicolas Desmoulins qui parlait des problèmes d'expulsion, vous savez, sur le logement, avait pointé que le premier poste de décrochage avant le paiement du loyer, c'est l'énergie. Et l'énergie a explosé. Le décret de ce qu'on appelait le bouclier tarifaire est sorti. Jean-Marc Torollion, qu'est-ce que nous dit ce bouclier ? Est-ce qu'il est protecteur ?
Incontestablement, oui. En tout cas, il l'est beaucoup plus que si on n'avait rien fait.
Il y a quoi dedans ?
Alors, très rapidement, l'État va prendre à sa charge le supplément de coût de la consommation de gaz dans le chauffage collectif pour toutes les copropriétés ou les monopropriétés qui ne sont pas dans le bouclier tarifaire, pour la période de chauffe qui part du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.
À effet rétroactif, donc.
Avec un effet rétroactif. Première phase de décompte, 1er novembre 2021, 28 février 2022, remboursé d'ici le 30 juillet. Si le dossier est monté avant le 1er mai, c'est pour ça que je vais animer tout à l'heure une réunion très importante avec nos syndics pour qu'on produise les attestations nécessaires pour que le dossier soit monté par les énergéticiens qui ont l'essentiel du travail. Et finalisation de ce remboursement avant le 30 septembre, des dossiers qui doivent être bouclés avant le 1er septembre. Donc, on a des fournisseurs d'énergie ou des exploitants de chaufferies qui vont devoir travailler rapidement. Ils sont prêts. On a eu une réunion de calage très importante technique vendredi. Le syndic est le pivot de cette organisation pour faire émerger la demande, se positionner en tant que client vis-à-vis de nos fournisseurs. Et l'État va prendre sa charge, cela directement avec les fournisseurs qui nous feront un avoir. Je tiens à souligner que ce sont bien les syndics de copropriété qui ont alerté le gouvernement, et ce sont les syndics de copropriété qui se sont posés, pour le coup, en défenseurs du pouvoir d'achat de leurs copropriétaires, oserais-je dire les syndics de copropriété professionnels.
Question qu'on nous a posée, c'est que justement ce bouclier tarifaire, est-ce que la différence entre le coût de l'énergie et la différence de coût, c'est revenir à l'état initial ? Exemple, je dépensais 10 et c'est passé à 40, la différence des 30 est-elle prise en charge par l'État ?
Non. La différence, elle est fixée par rapport au prix du mètre cube de gaz. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais globalement, au 31 octobre.
D'accord.
61 euros du mégawattheure. Et donc, c'est ce prix-là qui avait déjà subi une inflation.
Oui, qui va être, justement, c'est le sens de la question.
Qui va être l'étalon. C'est-à-dire que si, finalement,
Donc, l'étalon, c'est déjà quelque chose qui était déjà élevé en soi.
L'étalon avait déjà bougé à la hausse. Donc, ouais. C'est loin d'être négligeable, puisqu'on a renouvelé des contrats à 90, voire 100 euros. Hein. Donc, attention. Hein.
Wow.
Voilà, donc on avait des hausses de 40, 50, 90% dans certains cas de contrats. Donc, c'est loin d'être négligeable, mais ne sous-estimons pas, malgré tout, l'effort financier qui devra être fait ou qui aura dû être fait par nos copropriétaires. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, mais j'ai envie de dire que cela renforce d'autant plus la nécessité d'assumer la rénovation énergétique de nos immeubles. Ne nous trompons pas, la rénovation énergétique de nos immeubles, elle n'est pas forcément nécessaire pour baisser les coûts du chauffage. Elle est surtout nécessaire pour baisser les volumes et tenter d'abaisser, in fine, la facture finale, qui pourra peut-être être malgré tout supérieure à ce qu'elle était en fonction de la demande d'énergie et de la situation internationale.
En fait, ce que vous avez fait, c'est endiguer la hausse, quoi.
Ce qu'on a fait, c'est endiguer la hausse.
Ouais, oui.
Ce qu'on a fait, c'est demander une équité par rapport au bouclier tarifaire. Le gouvernement l'a accepté,
Et c'est l'État qui va payer.
Et c'est l'État qui paye. Donc, soyons clairs, c'est quand même le contribuable.
Oui, mais alors justement, tout ça, ça fait beaucoup pour l'État. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas une limite à cet exercice ?
Forcément. Il y aura une limite et je pense qu'il ne faut pas se...
Donc ce bouclier est un état d'urgence temporaire.
Ce bouclier est un état d'urgence temporaire par rapport à une situation du prix de l'énergie dont on peut supposer qu'une partie des facteurs hausse est liée à une situation temporaire qui est une situation internationale et notamment la guerre en Ukraine. Mais soyons clairs, nous allons établir des budgets prévisionnels pour l'année N+1 qui seront forcément...
La hausse était bien avant la guerre en Ukraine.
Oui.
D'accord, elle était même très significative. Oui. Est-ce que accuser la guerre en Ukraine, c'est pas un raccourci un peu court ?
Bah, en tout cas, elle ne contribuera pas, elle ne va pas contribuer, vous me l'accorderez, à baisser les tensions
sur cette situation. Si la guerre s'arrête, est-ce qu'on reviendra à des zones un peu plus normales ou est-ce que de toute façon on est sur un schéma inflationniste du coût de l'énergie ?
Je pense qu'on est sur un schéma inflationniste du coût de l'énergie.
C'est très clair. C'est très clair. À suivre avec beaucoup de vigilance. Merci Jean-Marc. Alors, autre sujet. J'allais dire, voilà, si j'avais un jingle, j'enverrais les applaudissements ou le triomphe romain. Romain, d'ailleurs, c'est intéressant, puisque Vesta, hein, voilà, intéressant. Les gardiennes du feu. Vesta va devenir, finalement, le signe, on l'espère, de reconnaissance de la profession. C'est donc le fameux... Alors, je ne dis pas le caducée, hein. Je dis l'insigne, voilà. Dites-nous en quelques mots, est-ce qu'on va y arriver ?
Alors d'abord, ce sera inscrit ? D'abord, ce que je peux dire, c'est que 3000 Vesta viennent d'être livrées. Parce que nous avions ce formidable mouvement, je veux dire, il n'y a jamais eu un mouvement comme ça dans la profession.
Ah, c'est clair.
Et ce mouvement fidèle à la parole de la FNAIM, qui a masqué ses Vesta 1 et qui est en train de recevoir ses Vesta 2 et qui nous dit bravo. La deuxième chose, c'est que les commandes affluent. Nous avons fait l'unité syndicale et nous ouvrons d'ailleurs la faculté à nos deux autres partenaires syndicats aujourd'hui pour leurs adhérents d'avoir des Vesta. Et enfin demain, par rapport à la situation. Demain, j'ai une réunion technique avec la DACS et la DHUP pour inclure Vesta dans notre réglementation. Donc, on n'a jamais été aussi près de réussir cette intégration. Et il faut bien se souvenir pourquoi on l'a fait. C'est parce que on veut donner une identité forte aux titulaires de cartes professionnelles et capitaliser sur une réglementation qui doit produire ses effets en termes d'architecture globale de la profession. Donc voilà, on continue et j'en suis plutôt
alors,
heureux.
Pour être parfaitement clair, cet insigne devient la marque de reconnaissance des professionnels.
Oui.
Et c'est la loi qui le dit.
Et c'est la loi qui le dira.
Qui le dira, voilà, qui le dira. Mais ce qu'elle dit déjà, c'est que le titre est protégé.
Oui.
Donc c'est déjà en soi, j'allais dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est le corollaire visuel de ce que vous avez déjà inscrit.
Absolument.
Et donc, forte probabilité que ce soit le cas.
Ah, on n'a jamais été aussi près.
Voilà. Et écoutez,
en tout cas, je ne lâcherai jamais.
Voilà. Mais de toute façon, Jean-Marc Tourlion, vous ne lâchez jamais rien, voilà, pour être très clair. Quand est-ce qu'on saura que c'est adopté ?
Eh bien écoutez, il y a vraisemblablement une première étape qui est à la fin de cette mandature, c'est très court mais ça peut se faire, et sinon vraisemblablement à l'automne.
Souhaitons-le. Ensuite, le sujet qui est intéressant parce qu'il faut en parler, bien sûr, il ne communique pas forcément puisque ce n'est pas le but, c'est la formation du nouveau CNTGI. Alors, Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière, c'est bien ça ?
Absolument.
Présidé par...
Hugues Périnet-Marquet,
qui est professeur à Dauphine, me semble-t-il. Combien de personnes au sein du CNTGI ?
Alors, au sein du CNTGI, d'abord...
Et qu'est-ce que c'est que le CNTGI pour nos... Voilà, on va en rajouter une couche.
Qu'est-ce que c'est le CNTGI ?
Oui, parce non, parce que... Non, mais vous le savez, bon, vous lisez les gens, voilà, c'est vrai, on dit souvent, il sert à quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ça n'a pas d'incidence, ça n'a pas d'importance. Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas, quand même. Hein. Ça a vraiment une importance.
Le CNTGI, il faut comprendre que nous avons 7 représentants des syndicats professionnels, dont 3 pour la FNAIM, plus nos suppléants. Et nous avons 5 représentants des consommateurs, un président Hugues Périnet-Marquet, et nous avons également la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, la DHUP et la DGCCRF, plus tout représentant des ministères qui souhaitent s'adresser à nous. Nous avons une compétence en termes d'avis obligatoire sur tout ce qui a trait à la réglementation professionnelle et à la copropriété.
D'un point de vue consultatif.
D'un point de vue consultatif. Savez-vous combien de fois nous nous sommes réunis en 3 ans ? 51.
Ah oui, quand même.
Une fois, une réunion toutes les 3 semaines.
Ce sont des réunions qui durent
2 heures à 4 heures.
Ah ouais, quand même.
Avec des documents qui sont préparés. Combien d'avis favorables avons-nous donné aux textes qui nous ont été présentés? 39. Combien à l'unanimité? 30. Et donc, je dis à tous ceux qui pensent que le CNTGI ne sert à rien, qu'il est le creuset en réalité de la respectabilité globale de cette profession qui, dans ce lieu unique, a le pouvoir de peser à la fois sur son avenir, face à ses interlocuteurs, en dialogue avec les consommateurs, plus 3 personnes qualifiées, 3 personnalités qualifiées, je le rappelle, dont l'Arc, Maître Le Batteux et la NACOFI. Donc, nous ne sommes pas un ordre professionnel, mais nous sommes, avec ce CNTGI, j'allais dire, sur une construction qui, avec le caducée, avec la protection des titres, avec la future commission de contrôle qui n'a toujours pas été nommée et qui, j'espère, sera nommée, voilà, je me bats pour...
Ça fait combien de temps, Jean-Marc Thorognon ?
Oh, bah, ça va faire globalement depuis la loi Elan, 2018.
Il y a un problème, là.
Oui, il y a un problème.
Ça vient d'où ? Qui ne veut pas que ça sorte ?
Eh bien, écoutez, je vais vous dire, ça vient en fait des syndicats de la profession, parce qu'il y a 5 postes, et il y a un débat sur les critères de la représentativité au sein de cette commission de contrôle. Donc, il faut que nos syndicats...
Si les syndicats s'étaient mis d'accord...
Ça serait réglé.
On aurait déjà une commission de contrôle.
Ah ben, ouais, c'est réglé. Donc, il va falloir qu'on y arrive, on va travailler intelligemment pour qu'on y arrive, puisque la représentativité... Elle vient d'être rendue, la FNAM restant et de loin le premier syndicat représentatif de la branche avec 49,78%. Trouvons le bon moyen d'être représentatif. Il y a une notion de nombre d'entreprises qui peut peser, mais il faut absolument qu'on y arrive. Et je souhaite par ailleurs des modifications législatives pour que les avis du CNTGI soient rendus publics.
Est-ce que vous êtes d'accord que le CNTGI aujourd'hui devrait avoir plus de moyens ?
Alors... Je trouve qu'il devrait avoir plus de moyens d'expression, c'est-à-dire que ses avis soient rendus publics.
Est-ce que vous aimeriez que le CNTGI soit doté de moyens coercitifs ?
Alors là, on change. Je pense que on changerait. C'était la volonté de la loi Allure. C'était de donner.
Ben oui.
Voilà.
On n'est pas loin de l'ordre. Hein,
c'était de donner au CNTGI.
On n'est pas loin d'un conseil de l'ordre. Hein.
C'était de donner au CNTGI une personnalité morale qu'elle n'a pas,
oui.
Et que cette personnalité morale lui permette. Tous les attributs propres à la personnalité morale, dont celle de d'ester en justice, d'agir en justice, dans son périmètre de compétence. Donc là, on changerait de dimension.
Oui, comme les prud'hommes ou le commerce, qui sont ce qu'on appelle les juridictions d'exception.
Le CNTGI ne serait pas la juridiction, le CNTGI serait le justicier.
Mais ce que fait Lippi en Belgique, en quelque part.
Quelque part.
Ouais. Mais alors justement, c'est une évolution parce que dans votre programme politique, professionnel je précise, hein, vous avez sollicité les candidats et vous plaidez pour un ministère de plein exercice. Un grand ministère du logement. C'est aussi votre cheval de bataille, ça.
Ça, oui, parce que et vous remarquerez que c'est un cheval de bataille qui est mené par la Fédération française du bâtiment
et tous les syndicats.
Ah, et tous les acteurs. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte que un ministre, même s'il est plein de bonne volonté, même s'il est plein d'idées, et au fond, on a eu 2 ministres qui étaient dans cette catégorie-là. À un moment donné, il faut qu'ils soient positionnés pour gagner leurs arbitrages, et ils ne les ont pas tous gagnés, et de loin. Et je pense qu'il faut un ministre de rang significatif pour donner le signal que construire, c'est très important, loger les Français, c'est très important, peser à l'égard notamment de Bercy ou d'autres ministères et faire en sorte que le logement des Français soit une vraie cause nationale et que ce rang de ministre en soit le symbole et, j'allais dire, le vecteur.
Alors c'est pourquoi je vous ai posé cette question ? Parce que le CNTGI... entre guillemets, nouvelle formule, serait un peu aussi le pendant de ce fameux ministère de plein exercice. Et donc, du coup, ça donnerait à la politique du logement et au logement général et à vos professions les lettres de noblesse qui, aujourd'hui, lui ont été un peu, dans une certaine mesure, confisquées. Parce que on est d'accord, Jean-Marc Thorognon, que... il y a un vrai sujet sur l'inflation normative dont vous êtes souvent la victime, parce que on observe que dans les combats que vous avez menés, mais pas uniquement l'AFNAIM, mais l'ensemble des organisations syndicales, on voit qu'il y a beaucoup de réactivité face à des normes qui sont contraignantes. On a l'impression même que c'est un peu schizophrène. On a l'impression d'avoir un gouvernement, un exécutif, qui vous dit loger les Français et en même temps qui vous rogne votre marge de manœuvre, quoi. Donc il y a de quoi devenir nerveux, quoi, parce que
il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Par exemple, notre rôle à nous professionnels, c'est aussi de mettre en cohérence tout ce qu'on nous donne dans le désordre. Je vous donne un exemple.
Ah, oui, dans le désordre. Vous avez bien. J'aime beaucoup la façon de dire dans le désordre.
On a l'obligation. On doit se battre pour installer des prises électriques dans nos parkings. Ouais. Et en même temps, on a un dispositif qui, dès lors que l'on fait des travaux sur des parkings en copropriété dont la valeur dépasse 2% le montant théorique de l'immeuble, on a l'obligation de proposer la création de garages à vélo sécurisés. Donc on vous donne ça. Un coup on a les garages à vélo, un coup on nous donne les prises dans les parkings, puis on a climat et résilience. Là, c'est là où notre rôle à nous est de dire, oh, est-ce qu'on pourrait pas quand même avoir un schéma global de cohérence? Parce que nos consommateurs finaux, nos clients finaux, il faut qu'on leur délivre un langage simple voilà. Et ça, c'est notre rôle. Après, ne surdimensionnons pas le CNTGI, il n'a pas vocation à faire la politique du logement. En revanche, acteurs de terrain que nous sommes, je pense que demain nous serons indispensables pour mettre en œuvre et voir, et dans un premier temps, apporter des sujets d'une façon pragmatique pour éviter des catastrophes.
Très clair. C'est le printemps bientôt, c'est l'heure de faire le point sur le marché intermédiaire, sur à la fois le premier trimestre, mais aussi le dernier trimestre 2021. 2021 a été une année exceptionnelle, une année d'ailleurs qui a interpellé l'ensemble des observateurs de la vie publique immobilière, on est d'accord, avec un record de transactions. Aujourd'hui, le chiffre à la fois en volume de compromis, le chiffre en termes de volume marché d'appétence des Français, malgré quand même une hausse significative des taux d'intérêt qui changent d'ailleurs quasiment tous les 15 jours, avec quand même des points de base qui ont quand même été largement augmentés. Est-ce que aujourd'hui l'état du marché est toujours aussi bon?
Alors, moi j'ai des statistiques au 28 février, juste avant la crise ukrainienne ou à peu près, on avait encore battu sur 12 mois glissants, le nombre de transactions signées chez les notaires.
1,5 million. Par rapport à 2021, c'est incroyable.
Oui. Et pour le mois de mars, c'est un petit peu tôt pour le dire. On a un petit indicateur avancé, nous. C'est le nombre de signatures des compromis via notre plateforme Modelo. Et la vitalité est très importante. Ceci étant, je suis prudent parce qu'on ne l'a pas encore modélisé. On n'a pas assez de recul. Donc il est un peu tôt pour dire « c'est la vérité ».
D'accord.
Mais néanmoins, jusqu'à maintenant, malgré les difficultés, malgré la crise ukrainienne, malgré, j'allais dire, la hausse des taux d'intérêt, qui se conjugue quand même à un effet prix qui est loin d'être anodin, puisque on a sorti nos baromètres territoriaux et la hausse des prix, elle est quasiment généralisée à l'exception de Paris, le marché répond toujours présent. Et je pense qu'il faut être clair, quand on a 4% d'inflation, il n'y a pas beaucoup de valeurs qui protègent de l'inflation. Et le flux d'épargne qui se dirige vers l'immobilier, il n'est pas anodin et il s'explique aussi.
Et non, et il est d'ailleurs tout à fait représenté dans les cycles connus de l'immobilier,
oui,
où les périodes inflationnistes ont toujours été, on va dire, entre guillemets, hein, plutôt bonnes pour l'immobilier, on peut le dire,
oui,
ça.
Oui.
Donc finalement, est-ce que ça vaut la peine d'emprunter encore, même avec la hausse des taux d'intérêt, avec une inflation comme aujourd'hui? La réponse est oui.
Ah, la réponse est oui.
Et oui, au contraire. Avant, on pouvait emprunter sur 20 ans ou sur 15 ans à 0,90 ou 1,10. Aujourd'hui, on est plutôt à 1,60. Donc, mais vous voyez l'écart. Eh bien, ça vaut toujours la peine.
Quand on empruntait à 0,90 pour une inflation de 2, les taux d'intérêt réels étaient de moins 1,10. Quand vous empruntez à 1,50 avec une inflation de 4, le taux d'intérêt réel est à moins 2,5.
Donc c'est très clair. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que ce calcul, il faut le rendre plus pédagogique vis-à-vis des Français.
Bien sûr.
Pour qu'ils le comprennent. Et là, du coup, ça devient extrêmement clair. Si on prend aujourd'hui, alors bien évidemment, vous avez pris le soin de préciser que l'état que vous avez fait, justement, c'est la question que je voulais vous poser, quand vous avez fait le point sur les compromis chez Modelo, dans la plateforme Modelo que vous utilisez, c'était à quelle date? C'était à 20 février aussi?
C'est hier.
Hier, donc aujourd'hui, sur la plateforme de Modelo,
au mois
vous
de
avez
mars,
un niveau
pour le mois de mars
quasiment plus élevé que celui d'en dernier à la même date.
Oui.
Et si vous prenez la stat des notaires publiés le 28 février, c'est bien ça.
En 12 mois glissants, on est mieux.
Vous étiez déjà... Ouais. Le contexte n'est pas facile d'un point de vue social, d'un point de vue culturel, on le voit bien avec les élections, etc. Pour vous, c'est clair, les Français choisissent la pierre par instinct de protection, juste pour qu'on comprenne bien. Si on devait donner une raison un peu plus, moins économique et plus large, comment ça se fait que ça cartonne autant l'immobilier ? Pourtant, on en a connu, vous et moi, des crises.
Oui, mais encore une fois, on oublie quand même que globalement, les fondamentaux économiques n'étaient pas mauvais dans ce pays. Alors, on a une expression du vote aujourd'hui qui traduit d'autres préoccupations. Mais globalement, on avait une situation de l'emploi qui était plutôt bien élevée, qui était plutôt, j'allais dire, bonne. Une situation du chômage qui était plus faible, moins élevée. On avait une situation économique qui était plutôt correcte en termes d'activité. Tout le monde cherche à embaucher. On sent une inflation sur les salaires avec un double mouvement lié à la hausse des prix, mais lié aussi à la rareté de la ressource humaine. Donc, on a des fondamentaux qui sont plutôt rassurants. Là, ça va se jouer beaucoup plus sous un aspect psychologique et puis voir un petit peu quels sont les effets de la crise ukrainienne. On sent qu'on a une petite hausse des défaillances d'entreprises qui commencent à être signalées. Est-ce que voilà, on est dans un petit peu à vue. Mais quand on tâtonne à vue, finalement, on regarde un marché boursier qui est quand même très volatile, d'une rémunération de l'épargne qui est très très faible. Bah, la pierre apparaît comme étant le phare.
On est d'accord. Donc finalement, si on prend, tout devient extrêmement logique, si on prend la pierre comme un placement, pas dire refuge, mais un conservateur valorisant sur la durée, il n'y a juste pas photo quand on compare avec toutes les autres classes d'actifs, l'immobilier reste toujours le point central de l'économie nationale.
Oui.
Pour être très clair là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Marc Torollion, toujours aussi intéressant d'échanger avec vous dans la tribune Passion Logement. Voilà deux tribunes au mois d'avril pour les élections. Et bien évidemment, avec Jean-Marc Torollion, nous commenterons les résultats du second tour. On ne manquera pas de le faire. Et d'ailleurs, si nouveau gouvernement il y a, nous inviterons bien sûr le nouveau ou la nouvelle ministre du Logement. On espère que ce ministère sera peut-être celui du plein exercice, souhaitons-le. Merci, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller voter pour le second tour. Merci Jean-Marc Torollion.
Merci à vous.
Passion Logement, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.